À l'occasion d'une conférence donnée demain, samedi 8 mai à Auch sur Arnaud Beltrame, j'ai la joie de recevoir par téléphone ce matin le prêtre qui en a été le plus proche. Bonjour Père Jean-Baptiste.
Bonjour Isabelle et bonjour à tous les auditeurs qui sont matinaux.
Vous êtes chanoine régulier de l'abbaye de la Grâce dans l'Aude et vous avez accompagné Arnaud Beltrame les dernières années avant sa mort. Le 23 mars 2018, cet officier de gendarmerie se substituait à un otage lors de l'attaque de l'islamiste Redouane Lakhdim dans un supermarché à Trèbes. Arnaud Beltrame meurt de ses blessures le lendemain. Ce geste suscite aussitôt une immense émotion dans la France entière. Pourquoi, Père Jean-Baptiste, une telle émotion ?
Alors c'est objectivement une très bonne question et je pense que 3 ans après, on n'a pas complètement encore le recul pour expliquer pourquoi un Johnny Hallyday ou un Jean d'Ormesson ou récemment cette policière de Rambouillet ont suscité une émotion réelle et profonde et totalement légitime, mais hélas un petit peu éphémère. Et là, pour le coup, ça dure encore. Oui. J'en veux pour preuve les 350 villes qui ont des rues, places ou écoles en son honneur, mm-hmm. et les inaugurations continuent encore aujourd'hui. Et je pense qu'il y a deux raisons principales, même si le reste sera étudié par les historiens peut-être dans quelques années. La première, c'est que on a un geste d'un héroïsme inouï et complètement singulier pour la première fois de l'histoire de la gendarmerie. À ma connaissance, c'est un général de gendarmerie qui a fait pas mal de recherches qui me l'a dit, qu'il n'avait trouvé aucun exemple comparable dans toute l'histoire. Et donc, une journaliste me disait, habituellement dans un attentat, on était épouvanté par l'horreur de l'attentat, oui. et là, on était au contraire émerveillé par la beauté du geste. Et c'est, je pense, la première grande singularité de ce geste. La deuxième, qui n'engage que moi, et on verra, enfin, le bon Dieu nous dira si j'ai tort ou raison, mais je crois que le bon Dieu a voulu nous dire quelque chose par ce geste qui a vraiment un côté d'identification avec le Seigneur, surtout à l'aube de la Semaine Sainte, mmh. puisque c'était le vendredi de la Passion, juste avant le dimanche des Rameaux, que tout cela s'est passé, qui a probablement encouragé le ciel, si j'ose dire, à nous donner une belle leçon et à faire parler un homme qui était un converti récent, oui. et complètement habité par l'amour du Seigneur et en particulier par la méditation des dons du Saint-Esprit.
Arnaud Beltrame et sa fiancée Marielle sont venus à l'abbaye de la Grâce pour se préparer au mariage. C'est vous, Père Jean-Baptiste, qui les avez préparés pendant ces 2 ans. Vous avez donc été témoin d'une grande complicité, vous me disiez, entre les fiancés. Et 2 jours avant sa mort, cet officier de gendarmerie vous a envoyé sa lettre d'intention que tous les fiancés, en principe, rédigent pendant leur préparation au mariage. Les fiancés donc devaient se marier 2 mois plus tard. Qu'est-ce que nous disent vos échanges et cette lettre que vous avez reçue donc d'Arnaud Beltrame?
Effectivement, j'ai eu la joie et l'honneur d'être le prêtre le plus proche d'Arnaud et Marielle les 2 dernières années de la vie d'Arnaud. Mmh. Et je continue à voir beaucoup Marielle. On échange énormément, c'était encore le cas hier. Et elle va beaucoup mieux. Et ils n'étaient pas venus à la Grâce initialement pour préparer leur mariage, mais pour visiter un monument historique le jour de leur mariage civil. Et on se rencontre de façon fortuite et assez drôle, puisque j'étais en train de parler avec un jeune couple que j'avais préparé au mariage et qui me présentait leur bébé, et je les entends murmurer derrière moi, c'est drôle, un moine qui s'intéresse au couple. Et je me redresse presque vexé en disant, d'abord je ne suis pas moine, mais chanoine régulier Saint-Augustin, c'est très différent. Et puis deuxièmement, les couples, je passe mon temps à leur service, et ils me disent, c'est drôle parce qu'on cherche justement un prêtre pour nous préparer au mariage. Le contact a été bon tout de suite, et effectivement pendant 2 ans, ils ont été extrêmement assidus, studieux, intéressés, questionnants, et donc ils ont énormément travaillé et m'ont beaucoup édifié. C'est des choses que je partagerai lors de la conférence, puisque je ne vais pas tout dire en un quart d'heure.
Oui, bien sûr.
Et puis il faut en laisser un tout petit peu pour la conférence de Doche et puis celle de Toulouse.
Qui aura lieu le 8 juin. Prochain.
Probablement le 9, ça va probablement être déplacé le 9 pour qu'on puisse avoir un couvre-feu un petit peu plus souple le 9, à 23h. Mm-hmm. Et donc, on va le confirmer, sauf si les annonces gouvernementales changent, mais a priori, ce serait déplacé au 9 juin.
D'accord. Et revenons donc, sur cette lettre d'intention là, d'Arnaud Beltrame, s'il vous plaît.
Et donc ce texte est évidemment d'une grande élévation spirituelle, c'est un petit peu son testament, qu'il n'a pas du tout rédigé dans cette perspective,
Bien sûr.
mais Marielle me disait c'est son dernier grand texte et c'est vraiment son testament spirituel. Ce texte, tous les fiancés doivent le rédiger, la plupart en France depuis 1994. La plupart en France signent un document pré-imprimé. Personnellement, comme beaucoup de prêtres, je préfère qu'ils le personnalisent.
Eh oui.
Et à ma grande surprise et édification, Arnaud l'avait personnalisé à 100%, pas simplement en reprenant des petites idées, mais vraiment à 100% avec un texte d'une très grande élévation
Vous pouvez nous
qui,
en donner quelques phrases?
oui, absolument. Pendant 2 ans, Marielle a souhaité que je le garde pour moi. Alors que Monseigneur de Romanet, l'évêque aux armées, aurait souhaité que je le diffuse beaucoup, mais
Ah
il
oui.
respectait bien sûr
Et bien
l'intention de
sûr.
Marielle. Et maintenant, Marielle permet que, tout en lui gardant quelques phrases rien que pour elle, parce que c'est un petit peu son trésor, il puisse être diffusé. Donc il manifeste les 4 piliers que tous les fiancés doivent s'engager à adhérer complètement, donc la liberté, l'unité, l'indissolubilité et l'ouverture à la vie. Il va dire par exemple sa demande d'aide de Saint Michel pour que son amour, je le cite, voulu par Dieu et consacré par la Sainte Vierge, grandisse dans une fidélité absolue conformément à la sainte tradition de l'Église catholique. Voilà, donc on voit qu'il est complètement converti et catholique et qu'il veut vraiment lui être fidèle. Je veux m'engager, dit-il un petit peu plus loin, jusqu'à mon dernier souffle, à garder indissoluble le lien sacré de notre mariage, qu'avec l'aide de Dieu notre Père, rien ne puisse le détruire et qu'il se renforce au fil du temps. Là, on sent un Arnaud qui était conscient de ses faiblesses. Hein. Il a fait pas mal de bêtises avant sa conversion, avec les filles en particulier. Et il voulait vraiment, avec Marielle, être un homme droit, fidèle, délicat, respectueux. Et donc, il a la certitude, poursuit-il, que dans la foi que Dieu, dans la foi que Dieu, qui s'engage avec nous au sein du sacrement de notre mariage, consacrera notre projet de vie chrétienne. Et que par lui, notre amour sera chaque jour renforcé. Il avait vraiment un grand désir de sainteté, et de sainteté conjugale en particulier. Il l'exprime très très joliment. En tout cela, il se dit ouverture à la vie et de tous les enfants qui pourraient naître.
Père Jean-Baptiste, je rappelle que vous êtes chanoine régulier de l'abbaye de la Grâce dans l'Aude. Vous avez accompagné Arnaud Beltrame 2 ans avant sa mort et dans les derniers instants qui ont suivi son geste héroïque. Est-ce que vous considérez qu'Arnaud Beltrame pourrait être saint?
Alors, ce sera évidemment à l'Église d'en décider, en
Bien sûr.
particulier par la voix de l'évêque de Carcassonne, puisqu'il est mort dans le diocèse de Carcassonne, et puis de l'évêque aux armées, puisqu'il était militaire,
Oui.
et donc il est un petit peu sous cette double hiérarchie ecclésiastique. Ce qui est assez intéressant, c'est la coïncidence de plusieurs faits. Le premier, c'est indiscutablement une réputation de sainteté qui me remonte beaucoup, étant le prêtre effectivement un peu référent d'Arnaud. Donc j'ai régulièrement des gens qui me disent, qui me demandent s'il y a un procès de béatification qui est commencé ou qui me témoignent des grâces reçues,
Oui.
donc de petites grâces comme une dame avait pu le poser sur sa tombe il y a quelques mois, ou des grâces un peu spectaculaires comme une jeune fille qui a visiblement reçu le don de la foi.
Ah.
Il y a 3 ans, en voyant Arnaud, on saura au ciel comment ça s'est passé, mais en tout cas, cette petite adolescente a dit avoir reçu une apparition et depuis va à la messe toute seule et s'est préparée au baptême tout seul, qu'elle
Magnifique,
a
oui.
reçu il y a quelques mois. Et puis, encore récemment, très récemment même, un médecin de Rennes m'annonce qu'un de ses amis en soins palliatifs venait, après avoir invoqué Arnaud, d'être totalement guéri devant les médecins du CHU de Rennes à Uri. Et donc, si l'enquête conclut effectivement à une guérison médicalement inexplicable,
Oui, ce
remplissant
sera
les
déjà un
critères
premier
bien
miracle
connus,
alors.
ça pourrait faire un miracle,
Ouais,
tout à fait.
ouais,
Dans tous les cas, il faut attendre les 5 ans pour l'ouverture d'une cause, et donc on est à 3. Et
ouais.
puis, il se trouve que le pape François a ouvert en 2017 une voie permettant la canonisation des hommes et des femmes après le martyr pendant les 3 premiers siècles, l'héroïsté des vertus jusqu'à aujourd'hui, une troisième voie qui est l'offrande de sa vie pour des raisons de charité. Et je crois qu'à lire tous les critères du pape François dans son motu proprio du 11 juillet 2017, on est exactement dans le geste d'Arnaud le 23 mars 2018. Et à ma connaissance, il n'y a pas encore de candidat pour cette offrande de vie selon le modèle proposé par le Saint-Père, Arnaud serait bien taillé pour rentrer dans ce
Voilà,
schéma.
il serait le premier à ouvrir la marche. Alors
Peut-être.
justement, vous avez dit qu'Arnaud Beltrame avait aussi ses faiblesses comme nous tous, hein, et puis on a cette question évidemment qui nous taraude parce qu'il était, il appartenait à la franc-maçonnerie. Et comment sa foi pouvait-elle s'accommoder d'une telle adhésion?
Alors, c'est une question qui m'est très souvent
Eh
posée
oui.
et Arnaud ne m'en avait jamais parlé, le coquin. Je pense, alors qu'il avait je vous l'avoue, une très grande complicité et confiance, mais je crois qu'il ne voyait pas le problème. Et pour en avoir beaucoup parlé avec Marielle, puisque j'ai donc découvert tout cela
Après sa
après sa
mort,
mort, et pour en avoir énormément parlé avec Marielle et d'autres personnes qui étaient proches de lui et qui étaient dans la confidence, personne ne lui avait clairement expliqué l'incompatibilité des deux appartenances, qui j'espère est clair pour tous vos auditeurs, mais faisons que quand on le sait, il y a une excommunication même, donc on ne peut pas être catholique et franc-maçon, contrairement à ce que beaucoup disent. Et donc, contrairement à ce que lui disaient ses camarades de loge, ses frères de loge, qui lui disaient qu'il n'y avait pas d'excommunication, que tout allait bien, et qu'il pouvait rester catholique. Et donc, il était rentré en franc-maçonnerie par curiosité intellectuelle, pas du tout par occultisme, parce qu'il y a vraiment un caractère satanique dans la franc-maçonnerie qui a été bien mis en valeur récemment par le docteur Maurice Caillé ou Serge Abad Gallardo, qui ont bien précisé ces choses, notamment dans un livre récent de Serge qui s'appelle « Je servais Lucifer sans le savoir ». Et donc Serge me disait, mais Arnaud, exactement comme moi, il était rentré en maçonnerie sans voir du tout l'occultisme.
Plutôt
Il
par
était rentré
amitié
donc par
alors.
curiosité et resté par amitié. Parce qu'il y avait de très bons amis. La preuve, c'est qu'il allait qu'à sa loge de Rueil-Malmaison, donc assez loin de
De
Carcassonne, bien
Carcassonne,
sûr,
oui.
et jamais à sa loge de Carcassonne ou Narbonne, il allait retrouver ses amis. Et il planchait assez régulièrement sur les chevaliers templiers ou d'autres sujets cathos, sans du tout voir l'incompatibilité. En plus, il était peu pratiquant en franc-maçonnerie, puisqu'il n'y allait que 4 fois par an. Et quand on est très pratiquant de la maçonnerie, on y va 20 fois par an. Donc il était authentiquement catholique, et ne serait-ce que son testament dont je parlais à l'instant, donc sa déclaration d'intention, le montre sans aucune équivoque. Et d'une certaine manière, son adhésion à franc-maçonnerie a deux bons côtés, je crois. Le premier, c'est que ça a permis à pas mal de maires ou de députés ou de sénateurs francs-maçons d'applaudir à son geste et de valoriser sa mémoire. Et le deuxième, c'est que ça nous montre qu'une authentique conversion peut s'accompagner de fragilité et d'erreurs. Et je pense que pour nous qui sommes tous, enfin je parle pour moi, des pécheurs qui essayons de progresser jour après jour, ben c'est quand même très encourageant.
Ah bah
Voilà.
oui, tout à fait. Père Jean-Baptiste, ça nous donne déjà une première leçon, un premier exemple que nous pouvons tirer pour notre vie à partir de cette vie et ce geste héroïque du colonel Arnaud Beltrame. Cette fragilité, il y aurait autre
Voilà.
chose qu'on pourrait en
Oui, je
retirer?
crois que Arnaud avait été blessé par plusieurs échecs, par plusieurs souffrances, notamment le fait que sa maman était très souvent blessée et battue par son père pendant son adolescence, avait créé en lui un sentiment chevaleresque de protection des femmes en
Ah,
danger.
magnifique.
Et dès qu'il était en face à une femme en danger, il sortait de ses gonds. Et je pense que si le 23 mars avait été un homme qui avait été pris en otage, il aurait respecté les protocoles. Ça veut dire qu'une blessure d'enfance a pu susciter du coup un héroïsme
C'est
extraordinaire
ça.
30 ans plus tard. Et puis des échecs à Saint-Cyr, à l'école de guerre, alors qu'il était très brillant et qu'il
Mais
avait
oui.
sorti major de plusieurs autres écoles, et donc des échecs un peu incompréhensibles, l'avaient rendu humble et avait du coup, je crois, fait vraiment briller de belles qualités dans son cœur. Et puis je crois qu'il y a une leçon qui est peut-être la principale, c'est ce que les gens ont retenu de Beltrame, c'est pas qu'il était dans les forces spéciales, c'est pas qu'il était major
C'est son geste
de
héroïque quand
l'école
même.
des officiers, c'est son geste héroïque et son don de soi. Et ça nous montre, il nous rappelle bien ce que le pape François disait 4 jours avant l'attentat, et Arnaud l'ignorait, et je pense que le pape François ne le devinait pas non plus. Le pape François écrivait 4 jours avant que le critère pour évaluer notre vie est avant tout ce que nous avons fait pour les autres. Et c'est, je crois, la grande leçon que les gens ont retenu, quelles que soient leurs convictions religieuses, et la grande leçon que nous donne le pape dans son exhortation sur la sainteté, c'est-à-dire qu'on sera jugé avant tout sur le don nous-mêmes, et Arnaud nous montre l'exemple.
Voilà, nous allons rester sur cette belle conclusion et cette belle exhortation. Merci beaucoup, Père Jean-Baptiste, de nous avoir accordé cet entretien. Une grande première pour Radio Présence. Et puis, vous pourrez remercier aussi votre Père Abbé qui vous a autorisé à nous accorder cette interview radiophonique qui est vraiment exceptionnelle. Je vous rappelle donc la conférence que vous donnerez demain au cours d'un temps de prière, samedi 8 mai à 16h30 à l'église Saint-Aurens d'Auch, sur la vie spirituelle d'Arnaud Beltrame et les leçons de son geste héroïque. Merci beaucoup.
Merci Isabelle, merci à tous les auditeurs.